Une heure à Dakar, 22h à Niamey, 23h à Tripoli. Bienvenue dans Sahel Plus, présenté par Claire Morin-Gibourg. Bonsoir à tous. Aujourd'hui au sommaire de Sahel Plus. En Libye, le ministre des Affaires étrangères a demandé de l'aide auprès des Nations Unies pour l'entraînement de ses forces de sécurité. Au Niger, la société civile interpelle François Hollande à l'occasion de son déplacement dans le pays. Le Sénégal est ébranlé par un nouveau scandale dans la gendarmerie. Enfin, l'emploi et la lutte contre la pauvreté seront les deux thèmes du prochain sommet de l'Union africaine en septembre au Burkina Faso. Et pour finir, la page culture, le film « La pirogue » de Moussa Touré, enfin distribué aux États-Unis, retour sur un des films les plus poignants sur le drame de l'immigration illégale vers l'Europe. Mais auparavant, voici le bulletin d'information.
Au micro, Idrissa Seydoudia. Bonjour à tous et à toutes. L'actualité internationale reste dominée par la chute de l'avion de ligne malaisien dans l'est de l'Ukraine et aussi par l'invasion terrestre israélienne dans la bande de Gaza. Mais pour commencer, notre région. Le président français François Hollande est arrivé à Niamey ce vendredi pour rencontrer son homologue Mahamadou Issoufou. Au menu des discussions, le nouveau dispositif militaire de Paris au Sahel et l'exploitation de l'uranium par Areva. Au Nigeria, nouvelle violence signalée dans le nord-est du pays. Selon les autorités, plusieurs personnes ont été tuées par des islamistes armés de Boko Haram à Damboa. D'après l'AFP, l'attaque aurait débuté hier soir avant le coucher du soleil et la rupture du Ramadan, forçant un grand nombre de personnes à fuir vers la brousse. L'élection présidentielle au Burundi aura lieu le 26 juin 2015. Un éventuel second tour aura lieu le 27 juillet 2015, a précisé le président de la CENI, Pierre Claver Ndayikariye, lors d'une cérémonie à Bujumbura. Des législatives communales sont également prévues pour le 26 mai, des sénatoriales le 17 juillet et l'élection des conseils de quartier le 24 août. Le cessez-le-feu n'aura duré que quelques heures en Libye. Selon l'AFP, les combats entre milices ont repris aujourd'hui autour de l'aéroport de Tripoli. Les affrontements font rage depuis dimanche. Une alliance de milices islamistes cherche à déloger des brigades de Zenten qui contrôlent ce site stratégique depuis 2011.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Maintenant, le crash de l'appareil de la Malaysia Airlines qui a fait 298 morts hier dans l'est de l'Ukraine lors d'un vol Amsterdam-Kuala Lumpur. Le Boeing a été abattu par un missile, affirment les Américains. Le président Obama a exprimé sa profonde indignation en parlant aujourd'hui à la Maison-Blanche de cette tragédie révoltante, de ce drame atroce et indicible. Le premier ministre malaisien Najib Rajak a demandé que les responsables soient traduits en justice s'il était prouvé que l'avion a été abattu. De son côté, le Conseil de sécurité de l'ONU a demandé l'ouverture d'une enquête internationale complète, minutieuse et indépendante. L'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe a dépêché une trentaine d'inspecteurs sur les lieux de la catastrophe. Les séparatistes pro-russes qui contrôlent cette région les ont laissés accéder au site aujourd'hui. Lionel Gahima.
Plusieurs leaders du monde ont appelé à une enquête sur le crash qui, hier, a coûté la vie à toutes les 298 personnes à bord, dont un Américain. Pour le président Barack Obama, il faut une enquête indépendante et transparente avant de se prononcer sur les causes exactes de cette tragédie. Le gouvernement ukrainien a ouvertement accusé les séparatistes pro-russes d'avoir descendu l'avion, tandis que ces derniers blâment les forces de Kiev. Lors d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU, la représentante des États-Unis, Samantha Power, a douté que les séparatistes puissent se servir de manière efficace d'un système de missiles. Elle a suggéré une éventuelle aide technique du personnel russe. Et l'ambassadeur ukrainien à l'ONU, Yuriy Sergeyev, a promis de fournir des preuves de l'implication russe dans ce crash.
Le président Barack Obama a affirmé avoir dit au premier ministre israélien Benjamin Netanyahu qu'aucune nation ne devrait accepter que l'on tire des roquettes sur son territoire, et ce, au second jour de l'invasion terrestre israélienne dans la bande de Gaza. Lors d'une rencontre avec la presse à la Maison-Blanche, M. Obama a dit avoir souligné dans une conversation téléphonique avec M. Netanyahou comprendre que l'opération détruira les tunnels utilisés par les militants du Hamas pour attaquer Israël. Selon des sources médicales palestiniennes, au moins 25 habitants de Gaza ont été tués depuis le début de l'invasion. Au total, plus de 265 Palestiniens depuis que les dernières hostilités ont éclaté le 8 juillet. Israël dit qu'il tente d'arrêter les attaques à la roquette contre son territoire. On a signalé 2 morts chez les Israéliens. Retour maintenant à Sahel Plus et Claire Morin-Gibourg.
Retour à Sahel Plus sur la Voix de l'Amérique, nous ouvrons sur la Libye. Le ministre libyen des Affaires étrangères, Mohamed Abdelaziz, a demandé hier l'aide de l'ONU pour former les forces de sécurité de son pays. Sarah Diaby.
Le ministre Mohamed Abdelaziz s'est adressé, selon l'AFP, au Conseil de sécurité lors des consultations à huis clos sur la situation en Libye. Il a précisé en sortant de cette réunion qu'il ne demandait pas une intervention militaire, mais l'envoi d'une équipe d'experts en sécurité pour former l'armée et la police libyenne afin qu'elles puissent protéger les infrastructures, notamment les aéroports et les installations pétrolières. L'aéroport de Tripoli, qui a été endommagé hier par des roquettes au 5e jour d'affrontement entre des groupes armés, est fermé depuis dimanche. C'est en raison d'une offensive menée par des milices islamistes qui cherchent à déloger des brigades anti-islamistes. Le Conseil de sécurité a condamné ces violences, salue la tenue des législatives du 25 juin et demande au Parlement élu de se réunir rapidement pour se mettre d'accord sur un gouvernement.
Vous êtes bien à l'écoute de Sahel Plus sur la Voix de l'Amérique, 93.1 FM, notre fréquence à N'Djamena. Au Niger, visite de François Hollande dans le cadre de sa tournée africaine. Après Abidjan, le président français est arrivé à Niamey ce vendredi. Un déplacement marqué par l'arrestation d'une dizaine de membres d'ONG nigériennes. On leur reproche d'avoir voulu organiser des manifestations le long du cortège présidentiel. Ali Idrissa, du Réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire, le ROTAB, a été relâché juste après le passage du convoi.
J'ai été déjà pris pour une première fois jeudi à partir de 14h, pour être libéré dans les cours de 17h. Et ce matin encore, vendredi, la police était chez moi à partir de 4h, a défoncé mon portail. Il nous a été signifié qu'on nous reprochait de vouloir organiser des manifestations à Niamey lors de l'arrivée du président français François Hollande. Après l'arrivée de Hollande, il nous a signifié que nous sommes libres.
Mais selon vous, qu'est-ce qui dérange le pouvoir nigérien ?
Vraiment, nous ne comprenons pas. Le pouvoir nigérien devrait même nous applaudir parce que nous nous demandons que plus de ressources provenant de l'industrie extractive pour le Niger, de la part dans le contrat arrivé à Niger. Nous ne demandons pas plus ni moins que l'application des lois et règlements à Areva. Nous ne comprenons vraiment pas cet acharnement du pouvoir de Niamey contre nous, acteurs de la société civile, dans le cadre de cette République. Nous avions combattu avec ces gens pour ramener la démocratie dans notre pays. Nous ne comprenons plus comment est-ce que ces gens vont pouvoir empêcher aux Nigériens de s'exprimer librement et de manifester librement. Il y a vraiment une dérive autoritaire qui est en train de s'installer dans notre pays.
Quel serait votre message à François Hollande ?
Que François Hollande fasse en sorte que le Niger puisse aussi bénéficier des ressources de son sous-sol. Que François Hollande fasse en sorte que Areva accepte de respecter le Niger en mettant en application les lois et règlements de notre pays. Pas plus, pas moins. Nous ne demandons pas la charité à François Hollande. Nous ne demandons qu'une justice fiscale à François Hollande.
Ali Idrissa, du Réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire, le ROTAB, au Niger. Il répondait aux questions de Nicolas Pinault. Direction le Sénégal pour notre dossier. Le pays est ébranlé par un nouveau scandale dans la gendarmerie. Dans un ouvrage explosif intitulé « Pour l'honneur de la gendarmerie sénégalaise », le colonel Abdoulaye Aziz Dio accuse l'état-major de la gendarmerie de complicité avec les rebelles du mouvement des forces démocratiques de la Casamance, le MFDC. Plein feu sur ce feuilleton d'été dakarois avec notre correspondante Dienaba Sedouba.
Un autre scandale éclabousse encore une fois les forces de l'ordre. Cette fois-ci, c'est dans la gendarmerie qu'il y a désordre. Un désordre occasionné par le livre du colonel de gendarmerie Abdulaziz Ndawa, commandant en second de la gendarmerie. Dans cet ouvrage, il accuse le général Abdoulaye Fall, chef d'état-major de la gendarmerie actuellement au poste d'ambassadeur du Sénégal au Portugal, de complicité avec le mouvement des forces démocratiques de la Casamance. Il dénonce aussi les mensonges, manipulations, pots de vin dans la gestion du dossier de la Casamance. Cette nouvelle affaire fait réagir la société civile. Par exemple, la RADO, dans un communiqué, a exprimé sa vive inquiétude face aux révélations du colonel Abdulaziz Ndawa et exige l'ouverture d'une enquête dans les meilleurs délais. Au niveau du MFDC, on demande aussi un audit du dossier de la Casamance. Abdul Elin Kindiata parle au nom des rebelles.
Ouad donnait 3 millions, 12 tonnes de riz par cantonnement et par mois. Ce qui veut dire que j'avais déjà condamné la pratique. En ce moment, j'étais un émissaire direct et j'étais chargé de mission aux côtés du prélat. Je savais ce qui se passait à la présidence. Le dossier Casamance, c'est une cagnotte de 50 milliards qui a finalement divisé la présidence. Et la présidence était divisée en lobbying. Et finalement, quand quelqu'un gère le dossier, il y a l'autre lobbying qui presse leurs acteurs. Parce que tous ces lobbying avaient même des bandits armés qu'ils avaient infiltrés en Casamance pour seulement mettre aussi les bâtons dans les roues des autres. Donc le problème a été très complexe et je l'ai dénigré à l'époque, le général Fall, suivi encore de son grand maestro qui fut Latif Haïdara, m'ont fait la guerre et m'ont sevré de l'abbé Diamakoun, m'interdisant directement d'accès aux œuvres catholiques. Mais aussi de passage, je dois vous dire que quelque part aussi, est-ce qu'il n'y a pas encore un esprit aussi de querelle, c'est des antécédents, hein? Parce que je me rappelle à l'époque, il y avait aussi un contentieux entre le groupe du général Fall et du ministre de l'Intérieur qui fut l'actuel président sur ce même dossier. Donc sur ce, pour nous, le MFDC, nous pensons qu'il faut vraiment des études sérieuses sur le problème, sur tous ceux qui ont géré le problème de la Casamance.
Pour le moment, aucune réaction du côté du palais présidentiel. Pourtant, beaucoup attendent une déclaration ou des éclaircissements sur ce scandale de la gendarmerie qui fait tache d'huile. Dienaba Sedouba, Dakar, pour La Voix de l'Amérique.
L'emploi et la lutte contre la pauvreté, ce seront les deux thèmes qui polariseront l'attention lors du sommet de l'Union africaine. L'événement se tiendra en septembre au Burkina Faso, comme cela avait été le cas en 2004. Et encore une fois, les attentes sont nombreuses. De Ouagadougou, Zoumana Wanogo.
En 2004, Ouagadougou avait abrité un sommet du même genre, suivant avec Vincent Zakané, le ministre burkinabé de la fonction publique et du travail, le sens de ce retour du sommet de l'Union africaine sur emploi et éradication de la pauvreté dans la capitale burkinabé.
10 ans après, ce sera l'occasion d'évaluer l'état de la mise en œuvre des engagements pris en 2004. Mais ce sera aussi l'occasion pour les chefs d'État de notre continent de prendre de nouveaux engagements pour les décennies à venir. Dans ce contexte-là, il y a des questions clés qui seront des questions prioritaire. Parmi ces questions, il y aura la question du travail décent, un des concepts fondateurs ou fondamentaux véhiculés par l'Organisation internationale du travail. Il s'agit d'un travail qui permet à l'individu de subvenir à ses besoins et d'apporter lui aussi sa contribution à la construction de la société. Donc un travail qui permet de lui assurer un minimum vital et de bénéficier de ce qu'on appelle la protection sociale, c'est-à-dire la sécurité sociale. Donc il ne s'agit pas de créer un emploi pour un emploi, mais un emploi qui aboutisse à un travail décent. Mais au-delà, évidemment, il y aura d'autres questions, comme la question de la protection sociale, la question de la transition du secteur informel vers le secteur formel, la question aussi de la migration et du développement. Et naturellement, la question du développement inclusif, c'est-à-dire la croissance économique qui prenne en compte tous les citoyens.
Quand on parle de travail, beaucoup de personnes n'y comptent pas les artistes. Et pourtant, assure l'artiste musicien Inoussa Samandoulou, dit Fat Lion.
Puis c'est notre travail, c'est se faire plaisir et faire plaisir aux autres. En gagnant notre vie, en étant protégé socialement, moi, en étant protégé au plan du travail, en étant protégé comme tous les travailleurs. Et c'est ça notre espoir aussi. Je pense que c'est le moment aussi de parler de l'emploi artistique. Donc c'est un sommet qui nous donne tous espoir aussi. Et l'espoir du secteur artistique en tant qu'emploi innovant, nouveau emploi, je pense que nous avons notre place.
Les jeunes, de leur côté, se mobilisent pour plaider leur cause devant les chefs d'État. Zoumana Ounougou, Ouagadougou, La Voix de l'Amérique.
Et vous êtes bien à l'écoute de Sahel Plus sur La Voix de l'Amérique et sur le 102.4 FM, notre fréquence à Ouagadougou. Rubrique cinéma dans notre page culture aujourd'hui. Le film dénonçant le drame de l'immigration clandestine des Africains vers l'Europe, La Pirogue, du cinéaste sénégalais Moussa Touré, va être distribué aux États-Unis. Une très bonne nouvelle lorsque l'on sait que les films africains ont du mal à percer outre-Atlantique. Moussa Touré revient sur ce qui l'a conduit à réaliser ce long métrage.
Ce désespoir, il existe depuis tellement longtemps. Vous savez ce qui se passe en Afrique, ça veut dire que toutes les têtes que nous avons ne sont pas en Afrique. Tous les gens capables, disponibles, ils sont ailleurs. Et alors que nous sommes riches, vous savez, je vais vous donner juste un exemple. Je suis à Kédougou, là, à 700 bornes, pour préparer mon prochain film. Mais ici, on me dit que partout, il y a de l'or. Ça veut dire que les jeunes d'ici, là, vous savez qu'est-ce qu'ils font, là? Ils vont aller chercher l'or. Ils ont arrêté l'agriculture, parce qu'ici, la terre est fertile. Mais il y a une terre et il y a une sous-terre. Et le sous-terre, ils amènent de l'or. Donc toute la jeunesse là, ils ont arrêté de travailler la terre et ils vont aller chercher de l'or. Mais vous savez pourquoi? Pour trouver un visa et partir. C'est fou. C'est ce qui nous arrive ici. Donc je suis là pour penser à un documentaire tel pour ce film-là. Parce qu'il faut quand même faire un film sur ça, parce que personne ne dit rien. Moi, je suis là depuis 4 jours et personne... Les familles, c'est la même chose. Les familles envoient leurs enfants... Tout le monde est devenu européen ici. Il y a des motos, il y a 18 nationalités qui sont là. 18 nationalités de jeunesse, de la jeunesse, qui sont là à chercher de l'or, à essayer de trouver un visa, partir. C'est ça. Ça, c'est la nouvelle méthode ici, là, à Kédougou. On peut aller ailleurs. Ceux qui sont partis dans le désert, c'est une nouvelle méthode de chercher l'or. Mais c'est une réalité. C'est ce qui existe. Je suis venu ici, ça fait 2 ans que je ne suis pas venu à Kédougou. 2 ans que je ne suis pas là. J'arrive, la ville a changé. Il y a 18 nationalités africaines qui sont là, des jeunes qui sont en moto. Mais je vous assure, ils ont l'air de comme Mad Max. Quand vous voyez avec les motos, là, c'est la même chose. Ils ont des sacs, ils sont tout rouges de boue. Ils sont sur les motos, c'est chercher l'or et partir. Et partir, ça veut dire qu'on gratte la terre maintenant pour partir ici. Quand vous allez dans les pays africains, c'est des petits boulots que ces Africains font. C'est des petits boulots, des petites ventes, c'est vendre des cacahuètes, vendre des brosses à dents, vendre des petites choses. Cette Afrique riche, riche, mais riche, énormément, riche. Parce que vous savez, quand vous êtes Africain, en certains moments, vous dites, c'est pas possible. Vous avez 63 ans, vous avez 65 ans. Et c'est les mêmes choses que vous avez vues depuis que vous êtes né. C'est la même stagnation qui se pose.
Moussa Touré, cinéaste et auteur du film La Pirogue.
Je suis né dans un pays qui n'existe pas. Je suis né sur une terre qui n'est plus à moi. Une terre occupée, une terre piétinée, une terre autonome sur le papier. Je suis né sous les youyou et les cris de joie. Je suis né après bien d'autres dans le camp trop étroit. La mer était ma frontière, mon sanctuaire, pour oublier les colons, le blocus et la misère. J'ai grandi bercé au son des récits de l'exil. J'ai grandi au creux des vies suspendues à un fil.
Sahel Plus, c'est fini pour aujourd'hui. À la réalisation, Joselle Morissin. À la console, Rob McLean. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Nous nous quittons en musique avec Zebda et leur morceau « Une vie de moins », une chanson engagée qui dépeint la vie des Palestiniens vivant dans la bande de Gaza.
J'ai grandi trop vite entre deuil et oubli. J'ai grandi en tutoyant l'horizon infini. Le sable chaud sous mes pas me portait vers l'au-delà.
Rendez-vous lundi, 21h, temps universel sur la Voix de l'Amérique ou d'ici là sur nos pages Facebook ou Twitter, VOA Sahel Plus. Bonne soirée, bonne nuit et très bon week-end à tous.
Le couvre-feu, les blêmés, j'ai chéri au fond de moi le rêve d'en échapper. Le rêve d'en échapper. Le rêve d'en échapper. J'ai vécu les vagues humaines de l'intifada. J'ai vécu cortège et grève, drapeau à bout de bras. Nous chantions à plein poumon notre passion, tandis qu'au-dessus de nous paradaient leurs avions. Je suis mort à ton menti d'une balle perdue. Je suis mort assassiné par un homme inconnu qui croyait faire son devoir en tirant dans le brouillard sur des ombres ennemies aux armes dérisoires. Je suis mort comme mille autres, mille après mille avant. Je suis mort un soir d'automne, un soir de...